à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Les Landes et du Ciel, émission proposée par l'Astroclub du Marsan pour vous faire découvrir notre univers. Je me présente, Yves DeAngeli, et pour m'accompagner aujourd'hui, Richard Bartek, membre de l'Astroclub du Marsan.
Bonjour.
Lors de la dernière émission, nous avons levé le voile sur les connaissances que nous avons actuellement de notre univers. Bon, ce sont des théories, mais rien de mieux que d'aller vérifier directement sur place. Pour ce qui est de l'univers, c'est impossible encore, mais l'homme s'est déjà déplacé sur un autre astre, la Lune, et prévoit d'y retourner avant, peut-être, d'aller explorer Mars. Nous allons retracer le long chemin qui permit à Neil Armstrong et Buzz Aldrin de fouler pour la première fois de l'histoire le sol d'un autre astre. Depuis toujours, l'homme a été fasciné par la Lune. C'est vrai que c'est un objet qui, le soir, est relativement intrigant, très lumineux, et qui est facile à voir, on arrive à voir sa surface. Et il y a eu de nombreux mythes et légendes sont associés à la Lune dans toutes les civilisations. Ces différents mythes et légendes, on va les retrouver par exemple dans le mythe d'Icare, écrit par Ovide en 200 après Jésus-Christ, ou le premier voyage dans la Lune de Lucien de Samosate, 150 ans après Jésus-Christ. On voit que c'est présent, c'est vraiment présent, et c'est vraiment une croyance, qui peut aller jusqu'à une croyance. Donc j'en ai cité que deux, mais il y en a des centaines et des centaines. Il y a un autre élément qui est important aussi dans l'histoire de cette promenade de l'homme dans l'espace, c'est l'invention au 7e siècle en Chine de la poudre noire, des fusées. Donc on avait moyen de propulser un élément dans le ciel. Là, il y a un petit mythe de Wang Hu, qui serait le premier astronaute, donc lui persuadé que la Lune, comme on la voyait bien, elle n'était pas loin. Il a fait mettre des fusées sous son trône et il a allumé les fusées pour aller sur la Lune. Il a dû y arriver parce qu'on ne l'a pas retrouvé. Donc si ça se trouve, il est là-bas. Mais on ne sait pas. Et on va retrouver après tout ce développement technologique qui va se faire, toutes ces découvertes aussi scientifiques qui ont été faites par les astronomes. On va retrouver, il y aura énormément de fictions qui vont être créées. Par exemple, Godwin, L'homme dans la Lune ou Voyage chimérique. On va retrouver Savinien de Cyrano de Bergerac qui va écrire l'histoire comique des États et empires de la Lune, etc. Donc, chacun va, à sa façon, donner des solutions pour aller sur la Lune. Quand on prend Savinien, il utilise des fusées, mais aussi des moteurs solaires ou des moteurs à la vapeur d'eau. Enfin, il va trouver des éléments quelconques. Celui qui a vraiment fait avancer, qui a vraiment donné des éléments qu'on va dire qui étaient crédibles, c'était Jules Verne. Par exemple, dans La Terre à la Lune en 1865, il donne beaucoup d'informations.
Oui, lui justement, il aurait proposé pas mal d'idées reprises dans les programmes spatiaux.
Oui, parce que c'est un ingénieur, Jules Verne, donc lui, il n'était pas visionnaire comme les autres. En tant qu'ingénieur, il avait déjà trouver des moyens qui auraient pu fonctionner. Bon, il utilise un énorme canon pour lancer les fusées. Normalement, si on met des astronautes à l'intérieur, ils ne doivent pas survivre longtemps. Mais dans l'idée, ça peut marcher. Il y avait des théories qui ont été lancées pour utiliser des canons. Mais là, c'était des canons magnétiques pour envoyer des satellites. Il a choisi aussi un emplacement de tir qui est pas loin de l'équateur. Il avait déjà compris que ça coûtait moins d'énergie de quitter l'attraction terrestre depuis l'équateur que depuis une autre latitude. Il avait aussi prévu des expériences avec des animaux avant d'envoyer des êtres humains avec tout un ensemble d'expériences. Donc on voit que lui, réellement, il était beaucoup plus, en tant qu'ingénieur, il a vraiment posé les premiers éléments. Et ces éléments-là ont été repris par d'autres scientifiques, d'autres ingénieurs. On prend le soviétique Tsiolkovsky qui écrit pas mal d'informations, l'exploration des espaces cosmiques avec des engins à réaction. Donc lui, il travaillait sur les moteurs à réaction. Voilà, il s'est dit, un moteur à réaction, ça me permettrait d'aller suffisamment vite pour le faire. Les trains de fusées cosmiques, lui, il prévoyait d'envoyer des fusées les unes attachées aux autres pour gagner du temps et du matériel. Voilà, il a commencé à travailler là-dessus. On a un Français, Robert Hénaud-Peltry, lui qui travaillait sur l'exploration de la haute atmosphère avec des fusées. C'était un Français, il a fait un ouvrage qui était en 1934, qui était très très important, dans lequel il a regroupé toutes les connaissances de l'époque pour l'exploration spatiale. Et à côté de ça, c'était un pilote, donc il a inventé le manche à balai qu'on retrouve dans les avions. Avant c'était des pédales, des poignées, il y en a maintenant, il a tout regroupé. Un autre scientifique important, c'est Aubert, qui est roumain austro-hongrois. Lui, il a sorti la théorie sur le fonctionnement de la fusée dans les milieux interplanétaires. Et donc, il a fait des plans théoriques de fusées-sondes qui pouvaient fonctionner, des plans de vaisseaux spatiaux qui pouvaient marcher, une station satellite autour de la Terre. Il a étudié ça. Et Aubert, il a travaillé sur les V2, tristement célèbre. Mais on va voir que, malheureusement, les V2 ont fait beaucoup de dégâts, mais c'est quand même le travail qui a été fait sur ces V1 et sur ces V2 par l'Allemagne nazie qui a permis vraiment de lancer en fait, la construction sérieuse de fusées sérieuses. On va retrouver Goddard, l'Américain, qui lui a passé un autre cap. Avant, on faisait des propulseurs à poudre, comme la poudre chinoise. Voilà, on emmenait des propulseurs solides. Et lui, il a proposé de pouvoir faire des propulseurs avec liquide, utilisant des ergols, donc des fusées à carburant liquide. C'était beaucoup plus simple à pouvoir maîtriser, parce qu'un bloc de poudre, une fois qu'il est allumé, il est allumé. Et on ne peut pas gérer la puissance qu'il va donner. Alors que quand on utilise des ergols, qu'on utilise des carburants liquides, il suffit de régler le débit de ces carburants, on peut régler la puissance de la propulsion. Donc c'était une grosse avancée qui va être réutilisée après. Et on a le principal, donc Werner von Braun. Werner von Braun, lui qui était, on va dire, un ingénieur, un passionné en fait de fusées, qui, avec ses amis, lançait des fusées en Allemagne, des petites fusées, comme on fait encore maintenant, avec des programmes comme le Rocket Ridge Challenge avec les lycéens. Donc lui, avec ses amis, il lançait des fusées. Et rapidement, l'armée allemande, l'armée nazie, a vite compris que ça pouvait être très très intéressant de pouvoir lancer des fusées. Donc on les a plus ou moins obligés à participer en fait au développement de ces fusées. Von Braun au départ était contre, Aubert s'est plus ou moins laissé faire, et après Von Braun n'avait plus le choix parce que c'était ça ou alors il partait en camp. Donc globalement il est parti dans l'équipe. Et donc on avait ces petits clubs et sociétés qui existaient, il y en avait en France, on en retrouvait en Union soviétique, on en retrouvait en Allemagne. Donc en Allemagne, c'était la BFR, où on va retrouver à l'intérieur de ce petit club, ce club d'amis, ces sociétés savantes, on va retrouver en fait tous ceux qui ont vraiment participé au développement des fusées qui ont emmené l'homme dans l'espace. Donc au fond de lui-même, quand on lit les biographies et puis les écrits de von Braun, lui, ce qui l'intéressait, c'était d'aller dans l'espace. C'était d'envoyer la fusée dans l'espace. On lui demandait de faire des missiles, parce que le missile, c'est quand même relativement sécurisant, c'est-à-dire qu'on met une charge explosive, on démarre le missile, on n'a pas besoin d'envoyer un équipage qui prenne des risques pour larguer une bombe. Là, on peut envoyer un missile de loin. Donc lui n'avait pas le choix de travailler sur des missiles, mais au fond de lui-même, il voulait toujours travailler sur des fusées qui pouvaient sortir en fait, de l'atmosphère. Donc à la fin de la guerre, les Allemands, les nazis ont perdu. À la fin de la guerre, tous ces scientifiques ont été récupérés. Ils ont été récupérés par tous les alliés, donc les Américains ont récupéré von Braun plus une bonne équipe de scientifiques. Les Soviétiques ont récupéré pas mal de matériel et puis les techniciens. La France, on a récupéré ce qui restait, voilà. Mais ça a donné naissance au programme Redstone qui a amené à Apollo pour les États-Unis. Ça a donné naissance au programme R, donc les R1 à R7 et M1 pour les Soviétiques qui ont tiré le Spoutnik, qui ont mis le premier satellite. Et puis en France, nous, ça a donné naissance au programme Véronique, qui est Véronique, c'est l'ancêtre d'Ariane, tout simplement. Donc on a utilisé les compétences de ces gens-là pour gagner du temps dans le développement de nos fusées. Donc on se retrouve dans un contexte de guerre froide, un contexte géopolitique un petit peu compliqué. Donc le principal souci de ces missiles qui vont être développés, ce sera emporter des charges nucléaires.
Ah oui. Et qu'est-ce qui a fait basculer les missiles dans la conquête de l'espace ?
C'était un petit concours. Il y a une année qui a été désignée Année géophysique internationale en 1957. Et donc c'était en gros, c'était un colloque de savants qui était prévu. Et en 55, les États-Unis, ils ont simplement dit qu'eux, ils allaient envoyer un satellite pendant cet AGI, à des fins scientifiques, soi-disant. Et bien évidemment, les Soviétiques ne pouvaient pas laisser passer ça. Et donc, ils ont annoncé, quelques mois après, qu'il y aurait effectivement un satellite qui serait lancé, mais il ne serait pas américain, il serait soviétique et il sera très gros. Donc, ça donnait une course, cette petite course, ce petit concours qui a été lancé, ça permettait de, on va dire discrètement, développer des lanceurs puissants pour mettre des missiles, mettre des charges nucléaires puissantes, en disant que c'était pour la GIE et que c'était, voilà, c'était pour le concours. Donc les programmes américains se développent pour aller là-dessus. À noter un truc qui est relativement rigolo, c'est que on connaît Spoutnik. Spoutnik, c'est le premier satellite qui a été envoyé par les Soviétiques. Le premier objet satellisé par l'homme. Sauf que dans l'histoire, von Braun, il était prêt avant. Il était prêt un an avant. Un an avant, il a fait un tir d'une fusée Jupiter. Cette fusée, elle aurait pu emmener directement le premier satellite américain dans l'espace, mais la NASA, le Congrès, n'a pas voulu que ça soit un Allemand qui mette en orbite le premier satellite américain. Donc ils ont mis un lest à la place du satellite, et le lest, effectivement, s'est retrouvé dans l'espace, mais ce n'était pas un satellite. Donc ils auraient pu gagner le concours à ce moment-là, mais bon, c'est bête, ça n'a pas marché. Donc en 1957, le premier bip-bip de Spoutnik qui a signalé à tout le monde, à toute la Terre, que effectivement, c'était réussi, il y avait un objet mis en orbite autour de la Terre.
Ah, du coup, ça fait un beau revers pour les Américains.
Ah ben, ils ont été fâchés quand même un peu. Donc ils se sont dit, on n'a pas réussi à faire celui-là et on va faire une nouvelle frontière. Cette nouvelle frontière, ben, ce sera la Lune. Et en 1958, pour ça, ils ont créé la NASA. La NASA qui pouvait coordonner tout ça. Et les premiers vols d'essai ont lieu avec les Soviétiques ont tiré ont fait des vols d'essai avec des animaux, donc Laïka, la célèbre Laïka, la chienne qui a été en orbite. Mercury, Redstone, ils étaient plus avec des chimpanzés, donc c'était Ham, le premier qui a fait un vol suborbital. Et en France, nous on était plus sur des félins, donc on a Hector, on a Félicette, on a tiré des rats aussi. Avec les fusées Véronique pour tester, simplement savoir est-ce qu'il est possible d'envoyer un être humain dans l'espace et qu'il ne meure pas. Donc le premier homme qui est parti dans l'espace, c'était 2 heures de vol, hein, il est connu, Yuri Gagarin. Donc on peut mettre un bémol sur la réalité en fait de ce premier homme dans l'espace, parce qu'en fait il a pas piloté sa capsule. C'est-à-dire qu'il était dans une boîte, on l'a envoyé, il a fait le tour, voilà, il est resté 2 heures. Et quand il est redescendu, il ne pilotait pas la redescente et sa capsule n'a pas atterri sur le sol. Il a sauté en parachute, donc on ne peut pas réellement dire qu'il a vraiment fait, qu'il était le premier. Quoi. Hein, c'était Shepard lui-même, Alan Shepard, l'Américain, qui lui a piloté sa machine et a réussi à reposer, il s'est reposé avec sa capsule.
Alors du coup, la chose a lancé la course.
Oui, puis ça, donc ils se sont dit que c'était jouable et John Fitzgerald Kennedy a fait un discours en 62 où il annonce à tout le monde qu'on ira sur la Lune. Et ça coûtera du temps, ça coûtera de l'énergie, mais on ira et on sera les premiers à y aller. Donc il va mettre en place le programme de développement. On connaît les noms de Mercury, de Gemini, qui sont les petits programmes qui permettent de tester. Globalement, Mercury, c'est savoir est-ce qu'un homme dans l'espace peut survivre, est-ce qu'il peut piloter, est-ce qu'il peut être encore intelligent, capable de faire des actions. Et le programme Gemini, ça va être la répétition de tout ce qui pourrait se passer partout dans l'espace. Donc, on a ces deux programmes qui se lancent, ça va durer à peu près 8 ans, et au bout de ces 8 ans-là, on sait qu'on est capable d'envoyer des hommes dans l'espace, de piloter, d'envoyer deux vaisseaux qui se retrouvent dans l'espace, les personnes peuvent sortir, s'échanger, etc. Du côté soviétique, on n'a pas d'infos, hein, parce que c'était encore tout fermé. Mais ce qu'on sait, c'est qu'ils étaient en avance, mais que des problèmes politiques, des problèmes personnels ont fait que les programmes ont pris énormément de retard. Donc, est lancé le programme Apollo. Le programme Apollo, on s'est dit, voilà, on sait faire. Alors, deux solutions. Soit on envoie directement la fusée va sur la Lune, elle se pose. On fait une petite promenade, la fusée redécolle, elle revient. C'était le plus simple, sauf qu'on n'avait pas les moyens. Les fusées devaient être vraiment énormes et très puissantes. On n'en avait pas, les Américains n'en avaient pas. Donc ce modèle-là n'a pas été pris. Un rendez-vous orbital autour de la Terre, on envoyait des petits bouts autour de la Terre. On rassemblait tout ça et ça faisait une fusée qui partait directement en direction de la Lune. Et le troisième, c'était une fusée avec des différents étages. Et au fur et à mesure qu'elle avançait, on avait le lanceur, une fois que le lanceur avait sorti, on était sorti de l'attraction terrestre, on avait un petit train avec deux modules qui partaient en direction de la Lune, un module qui se mettait autour de la Lune qui restait en attente, une capsule qui descendait sur la Lune. ils faisaient leur petite promenade, ils reprenaient la capsule, elle redécollait, ils retrouvaient le module de commande qui était au-dessus, et après ils pouvaient rentrer sur la Terre. Donc c'est ce modèle-là qui a été choisi, c'est le modèle qui a été utilisé pour développer l'ensemble du vol Apollo. Et donc la durée de vol est d'entre 4 et 5 jours pour aller sur la Lune et revenir. Et on a utilisé les fusées de Von Braun.
Bye.
en revenant sur le programme Apollo, on voit qu'il y a eu, 17 missions Apollo qui ont été lancées, enfin, qui ont été désignées. Apollo, ça a très mal commencé. Le premier essai, l'Apollo 1, le premier essai qui a été fait, qui était un essai simplement d'habitabilité de la capsule, la petite capsule, comme je l'ai dit, qui devait se poser après sur la Lune. Ben, cette petite capsule, il y a eu un incendie sur la première Apollo, qui était directement lié, il y a eu un petit court-circuit dans la capsule. Et ce petit court-circuit, comme ils étaient dans l'atmosphère d'oxygène pur, eh ben ça, il y a eu un incendie qui s'est déclaré. Et malheureusement, la capsule, elle pouvait être ouverte que de l'extérieur. Ils n'avaient pas la possibilité d'ouvrir depuis l'intérieur. Donc on a les trois premiers, donc Grissom, White et Chaffee, qui sont morts sur ce premier essai. Donc ça a mis un coup de frein à l'épisode Apollo. Il a fallu attendre Apollo 8 pour commencer, Apollo 7, pour commencer à avoir vraiment des astronautes, de nouveau des hommes dans cette capsule-là. Il y a eu plein d'essais qui ont été faits. Et Apollo 7, on a premier tir avec des astronautes à l'intérieur qui a bien fonctionné. Et après, ça s'est enchaîné. On a envoyé une capsule qui a été à la Lune, qui a fait le tour de la Lune et qui est revenue. Ok, c'est bon, on s'est envoyé autour de la Lune, on s'est la récupérée. Après, on a un premier vol avec le module qui était prévu de se poser sur la Lune pour vérifier que tout fonctionnait. Après, on a Apollo 10 où en fait on a fait descendre comme dans le scénario prévu, sauf que ils n'ont pas eu le droit de se poser. C'est-à-dire qu'ils validaient tout, le freinage, pour que l'élément descende bien sur la Lune. Et Apollo 11, ils ont fait le scénario complet. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment, eux, réussi à se poser. Donc c'est une méthode d'approche qui va être réutilisée plus tard dans le programme Artemis qui est en cours en ce moment. On va réutiliser les mêmes façons en fait, d'approcher la problématique, même si on n'est pas tout à fait dans les mêmes scénarios, mais on va travailler exactement pareil. Et donc on aura tout un ensemble de missions qui vont succéder à Apollo 11, qui vont permettre de ramener des échantillons, de poser des instruments scientifiques qu'on utilise encore, hein, des réflecteurs laser ou d'autres capteurs qui sont encore utilisés. Donc la totalité nous a permis de ramener à peu près 382 kg de matériel lunaire, donc de roches. Et ces roches, on les utilise, elles sont encore stockées. Il y a des roches qui sont encore stériles, qu'on n'a pas étudiées. Mais autrement, elles sont étudiées par les scientifiques et c'est de là qu'on a pu savoir que la Lune, globalement, avait été créée suite à un impact d'un objet avec la Terre, par exemple, entre autres.
L'aventure n'a pas continué pourtant. On pouvait en apprendre plus. Pourquoi ?
Et parce que ça coûtait très cher, tout simplement. Ça coûtait énormément. Le budget était estimé, hein, si on le réévalue par rapport, on va dire en 2020, c'était 288 milliards de dollars pour faire simplement la mission Apollo. Donc ça mobilisait 400 000 personnes. C'est vrai que ça a développé les technologies, mais ça devenait trop cher. C'était impossible. Donc on a un peu continué avec des missions Skylab, une Skylab qui est restée 6 ans, une petite station spatiale qui réutilisait les modules Apollo. On a eu une mission Apollo Soyuz en 75 qui a duré 9 heures où en fait on a mis les Russes et les Américains dans le même bateau, on va dire. Et après, ben, ça a décliné complètement. Et le regain d'attention, il revient dans les années 89. En 89, Bush, père, décide de faire un programme d'exploration pour que tout le monde puisse aller sur la Lune, qu'on ait une habitation permanente sur la Lune. Toujours dans cette idée de guerre froide, c'est-à-dire que celui qui domine le haut domine le bas. Donc il voulait absolument remettre une station, une base permanente. Mais les budgets étaient énormes et donc ça ne pouvait pas fonctionner, donc c'était annulé. Son fils, plus tard, il programme un retour d'astronautes sur la Lune pour 2020 et aussi d'aller sur Mars. Donc c'est ce qu'on appelle le programme Constellation. Ce programme, il était complet avec des lanceurs, avec des navettes et tout ça. Pareil, point de vue budget, c'était trop lourd. Et donc c'est Barack Obama qui a annulé ce programme Constellation. Mais comme il y avait déjà des lanceurs qui existaient, il y avait déjà des petites navettes qui existaient. Donc en 2017, on relance doucement en fait le programme d'exploration par la mise en place d'une station spatiale, mais contrairement à l'ISS qui est autour de la Terre, la station spatiale, elle va être mise en orbite autour de la Lune. Elle servira, on va dire, d'aérogare ou d'aéro, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, aéroport, où on enverra du matériel ou des hommes en direction de cette station, et puis après, ce sera leur station de vie, et ils pourront descendre, travailler sur la Lune et remonter. Et ça pouvait servir aussi de point de départ pour partir en direction de Mars. Donc c'est le programme Artemis qui a été lancé là. Et ce programme Artemis, il y a trois composantes. Il y a le lanceur lourd qui avait été créé dans le cadre du programme Constellation. On a le vaisseau Orion et on a cette station qui va être construite bientôt. Donc on a déjà fait sur ce programme Artemis, la phase 1 a déjà été faite. C'est-à-dire qu'en novembre 2020, on a fait les premiers tirs de ce lanceur. Le lanceur est parti, il a été se mettre en orbite autour de la Lune. Et puis après, il est revenu sur Terre, il est revenu dans l'océan, comme prévu. Donc ce programme-là, pour l'instant, est bon. Il y avait le Artemis 2, où dans ces cas-là, on mettait un équipage à l'intérieur, qui est prévu pour 2024. On serait plus sur du 2025, 26, 27, point de vue budget, donc ça risque d'être compliqué. Et Artemis 3, qui est encore prévu encore plus tard, lui, ce sera peut-être sur 2030. Donc le programme, on reprend exactement ce qui a fait la qualité d'Apollo et pour faire ce programme lunaire qui va bientôt fonctionner. Et donc, comme j'avais dit qu'on avait une station spatiale autour de la Lune, le point de départ pour aller sur Mars, le gros problème pour aller sur Mars, c'est quand on va sur la Lune, la mission, c'est une douzaine de jours. Quand on va sur Mars, suivant le moment où on tire, c'est 640 jours ou 900 jours. Donc, on ne peut pas faire des missions courtes. Le risque, c'est que s'il y a un souci, on ne peut pas intervenir. On ne peut pas discuter avec eux. Hein. Quand on est sur la Lune, la radio, c'est quasiment instantané. C'est une petite seconde d'écart. Quand on est sur Mars, suivant si on est proche de Mars ou pas, il y a 3 minutes, entre 3 et 20 minutes pour échanger. Donc c'est pour ça que les petits rovers qui sont actuellement sur Mars, ils ont de l'intelligence artificielle. On leur donne une direction et c'est eux qui font leur boulot. On ne peut pas les piloter. Donc le risque est très très grand pour l'instant sur Mars. On n'a ni la technologie, ni la psychologie, parce qu'on a fait des missions où on enferme des gens pendant 500 jours ensemble, mais le recul de ce qui pourrait se passer, on va dire d'un point de vue psychologique, pour l'instant n'est pas maîtrisé. Donc c'est vrai que Mars, pour l'instant, ça reste une nouvelle frontière, mais une nouvelle frontière qui est très très lointaine. Bon, nous avons vu comment l'homme a pu aller sur la Lune et espère bientôt aller sur Mars. Lors de la prochaine émission, nous ferons le point sur les découvertes des planètes tournant autour d'autres étoiles, ce qu'on appelle des exoplanètes. Ces exoplanètes, elles vont nous permettre aussi à nous de comprendre le fonctionnement, les différents scénarios de création des systèmes solaires, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y en a qui ne fonctionnaient pas comme nous, et puis voir si d'autres planètes pourraient être habitables, hein, pas pour autant y aller, mais pour dire qu'on n'est pas forcément les seuls à pouvoir exister. Donc ce sera lors de la prochaine émission, et retrouvez-nous en podcast sur Radio MDM, ou passez-nous voir les mardis soirs et vendredis soirs. On vous partagera notre ciel, on vous montrera un petit peu tout ce qui est au-dessus de votre tête. Donc vous trouvez nos infos sur notre page Facebook. Bon ciel à toutes et à tous, et à bientôt. C'était Les Landes et du Ciel, une émission proposée par l'Astroclub du Marsan. Nous vous donnerons rendez-vous le mois prochain. Retrouvez également cette émission dans les podcasts de Radio MDM.